Bonsoir à tous, soyez les bienvenus dans COP Paris, votre rendez-vous tous les lundis avec le PSG sur BFM Paris-Île-de-France. Le rendez-vous, on y est presque, c'est dans deux jours, le retour de la Ligue des Champions et ce choc explosif face à Manchester City. Pour en parler, vous donner toutes les clés de cette rencontre, j'ai le plaisir d'accueillir Jonathan Ferdinand, créateur de contenu. Salut Joe.
Salut Julien, salut Raph.
Raphaël Chader, créateur de contenu, lui aussi est là aussi.
Salut Julien,
salut Raph. On y va pour le sommaire parce qu'on a un programme très chargé et focus tout d'abord sur la victoire à Lens, répétition générale réussie, retour en forme pour Barcola et officialisation de Kvaratskhelia, on en parle dans la première partie. PSG Manchester City, le duel des coachs, Guardiola versus Enrique, ce qui les réunit, ce qui les différencie, et cette question un petit peu polémique volontairement, Luis Enrique est-il de la même trempe ou n'est-il qu'une pâle copie de Pep Guardiola? Et puis on se penchera en détail sur cette équipe de Manchester City qui a connu une chute assez vertigineuse. Arthur, supporter des Citizens, nous en dira plus sur l'état de forme des Sky Blues. Enfin, comme tous les lundis, le résultat de vos clubs franciliens omnisports. COP Paris, c'est parti. La dernière sortie, messieurs, avant le grand frisson, c'était donc samedi soir à Bollard. Pour la troisième fois de la saison, le PSG a battu Lens. Et pour la troisième fois, les sang et or ont donné pas mal de fil à retordre aux Parisiens. On va revoir les images avec une équipe du PSG assez remaniée. On y reviendra. Première période compliquée et un premier but en faveur des nordistes sur corner avec Mbala Nzola, que l'on va voir bien seul au second poteau pour tromper. Bon, Gianluigi Donnarumma, pas forcément exempt de tout reproche sur cette action-là. Le réveil des Parisiens avec le président. Signe payant de Barcola sur Malanxar, le service parfait pour un Fabian Ruiz clinique. Ça fait du bien de voir un PSG réaliste par moment. Barcola, passeur, puis buteur en fin de match, 86e minute, bien servi par Neves. L'ancien Lyonnais envoie une belle praline dans la lucarne opposée. Score final 2-1, match en deux temps, mais un petit peu à l'inverse de ce que l'on voit habituellement, où le PSG fait le taf en première période et laisse un petit peu de pied en seconde.
Oui, après c'est un PSG qu'on a l'habitude de voir avant un match de Ligue des Champions, c'est-à-dire que soit il est suffisant et du coup il se fait mener, ou soit à l'inverse, il est bon en première mais suffisant en deuxième et se fait peur en deuxième. Oui, on a l'habitude de ce scénario-là avec le PSG avant la Ligue des Champions. C'est pas alarmant, c'est un classique. Ouais. C'est un classique.
Plus de satisfaction que d'inquiétude à quelques jours de City de voir ce PSG. Alors il y a quand même les trois points, pas de blessés, de la rotation. C'est un scénario quasi idéal avant la Ligue des Champions.
Le PSG garde son invincibilité en Ligue 1. Mais la dernière fois que le PSG a remporté un match haut la main, c'était à Salzbourg en Ligue des Champions. Quand tu regardes en Ligue 1, hormis les matchs avec deux buts d'écart contre Lyon et Monaco, c'était des matchs quand même assez serrés. Ouais. On a dû attendre jusqu'à la fin pour voir le dénouement. Le PSG n'arrive pas, même contre des équipes inférieures à elle, à dominer son équipe, contrairement à quelques périodes des saisons passées. Donc aujourd'hui, en fait, on a l'habitude, mais c'est une mauvaise habitude. Parce que là, le plus gros match de la saison arrive mercredi. C'est compliqué.
Donc pas forcément rassurant pour mercredi. Luis Enrique, dans cette optique, on va la revoir, avait aligné une équipe assez originale avec Beraldo axe droit, Zahir Emery latéral droit, Fabian Ruiz sentinelle. Et alors surtout, voilà, Nuno Mendes, je voulais en parler, milieu relayeur en première période. Vous avez vu, vous avez compris où Luis Enrique voulait en venir, au-delà de la sacro-sainte rotation et adaptabilité de tous les joueurs.
Oui, j'ai compris. Il veut toujours inventer, donc il a encore inventé. Ouais. Après, il avait déjà essayé avec Hakimi, qui revient pas mal dans l'axe. Il a voulu essayer avec Nuno Mendes parce que Hakimi n'était pas là. Ça a pas super bien marché. Parfois, il allait même jusqu'à être faux numéro 9. Donc, je sais pas, j'ai pas trop compris. Après, si Luis Enrique et Nuno Mendes ont compris pour la suite, tant mieux pour eux. Mais c'est un peu comme ça tout le temps avec Luis Enrique. J'apprécie ce qu'il veut mettre en place, cette idée de concurrence, d'avoir 20 joueurs qui peuvent tout le temps jouer un peu partout. Mais faut pas aussi perdre les joueurs, perdre le staff, perdre les supporters, nous perdre nous. Mais bon, pour l'instant, c'est pas dramatique.
C'était conjoncturel, c'était avant Manchester City.
Bah après, il y a eu quand même 3 titulaires absents. Donc ça, faut le mettre en exergue. Maintenant, il y a Nuno Mendes, il y a aussi encore le cas Ramos en neuf. On ne comprend pas, est-ce qu'il va jouer, est-ce qu'il ne va pas jouer, surtout que la Colomagne est sur le départ. C'est notre seul vrai neuf à l'heure actuelle. Et même contre Espali, la gestion même des gardiens, on ne comprend pas pourquoi il n'a pas mis Safonov, qui est numéro 2, mais Tenas, qui a raté son match en plus.
Safonov qui s'était échauffé pour rentrer pour l'éventuelle séance de tir au but.
En plus, et le 3-4, parce que là, on voit l'image, c'est un 4-3-3, mais moi, j'ai vu un 3-4-3 avec Warren sur le côté en piston. Ouais. Donc, encore une fois, il nous réinvente une compo à quelques jours, je le répète, d'un gros match. Ça nous rappelle quelqu'un, en plus, contre Manchester City.
Voilà, la bonne nouvelle, c'est du match, Bradley Barcola, un but et une passe décisive samedi à Lens, un but et une passe décisive également contre Espali. Ça y est, le coup de mou est passé, le coup de moins bien est derrière lui.
J'espère. C'est pas forcément lié au foot, mais quand on dit qu'on a un traumatisme, que ça va pas bien et qu'on en parle, en général, ça aide à se reconstruire.
Il y a des choses plus importantes que le foot, c'est ce qu'il
a dit. C'est ça. Et, oui. Et quand il a dit ça, ça veut dire qu'il s'est un petit peu livré. Il nous a dit qu'il allait pas trop bien dans sa vie perso. Et en plus, ensuite, sa performance à Lens, elle est bonne. Donc j'ai envie de dire que c'est la voie d'un retour d'un meilleur Bradley Barcola. Alors est-ce que ça sera le Barcola qu'on a connu sur la fin à Lyon, au début au PSG? J'espère. J'ai l'impression peut-être qu'il y a un petit plafond avec Bradley Barcola, mais déjà qu'il soit bien meilleur, plus décisif, c'est déjà un bon début et c'est de bonne augure.
Est-ce qu'ils sont un petit peu aussi le souffle? On va en parler de Kvaratskhelia. Barcola, qui a été aligné à droite, c'est pas anodin ça non plus.
Moi, les deux derniers alors matchs. Peut-être, mais moi, il faut quand même rappeler que Barcola a effectué un excellent début de saison et je trouve qu'on a tendance, surtout en France, à enterrer les joueurs assez rapidement. Au début de saison, on imite certains le mettaient au-dessus d'Mbappé. Deux mois après, on parlait de flop sur certains médias. Donc, voilà, là, il y a eu le coup de mou. On rappelle que c'est un joueur jeune. Kvara arrive, ça va lui faire du bien, un peu de concurrence. Mais je pense que même sans l'arrivée de Kvara, il aurait pu délivrer ce genre de prestation parce que c'est un joueur jeune qui continue de progresser et ça fait partie de ça, l'apprentissage par mois des coups de mou, etc.
Mais si je dis pas de bêtises, peut-être c'est une grosse connerie, mais il me semble que Barcola a été formé dans l'axe à Lyon.
Oui, exactement.
Et de par sa taille, de par sa force aussi.
Il a joué à droite aussi assez fréquemment sur sa première saison.
Donc après, on dit que la polyvalence n'est pas bien. La preuve avec Désiré Doué, on savait pas trop où le placer. Pourquoi est-ce qu'on Luis Enrique n'aurait pas cette option aussi de mettre Barcola soit à droite, soit dans l'axe, sachant qu'on n'a pas de numéro 9 selon
ce jeu de domino avec l'officialisation de Kvaratskhelia. On a eu le droit enfin à ce que Luis Enrique nous en parle parce que c'était fait après le match à Lens. On l'écoute.
C'est un joueur que nous voulions signer depuis mon arrivée au PSG. Il a tout ce que l'on peut rechercher chez une recrue. De l'expérience acquise depuis sa jeunesse, de la personnalité. Il s'est dribblé, il s'est marqué. Il a la capacité de travailler défensivement. C'est un joueur qui, je pense, va renforcer notre effectif.
Rapidement, messieurs, est-ce que c'est un joueur, Kvara, qui va ou qui peut faire passer un cap à cette équipe?
Pour une fois que le coach obtient un joueur, ça change, mais moi je pense que oui, parce que Barcola sur son côté il n'avait pas énormément de concurrence. C'est un joueur qui,
mine de rien, a connu la Serie A et a prouvé contre des grandes équipes qu'il pouvait être bon. Et personnellement, j'adore ce joueur, surtout qu'il est capable de jouer aussi dans l'axe. Moi je prends tous les jours.
Oui, polyvalence aussi pour Kvaratskhelia.
C'est un joueur qui est impactant, qui a des stats, qui sait basculer un match. Il me fait un petit peu penser à Angel Di Maria de l'autre côté, sans dire que ça sera le nouveau Di Maria. Mais du coup, si son arrivée peut être aussi bénéfique au PSG que celle que l'a été Di Maria, c'est une bonne nouvelle.
Alors, l'autre gros dossier du mercato qui se transforme pour l'instant en un immense imbroglio, c'est le prêt de Randal Kolo Muani à la Juve. On va voir quelques images de lui. Il s'est entraîné aujourd'hui avec la vieille dame. Un point de règlement empêche pour l'instant les deux clubs de valider l'opération. Le fait tout simplement que le PSG a déjà 6 joueurs de plus de 21 ans prêtés à l'étranger. On va faire la liste. Xavi Simons, Soler, Mukiele, Bernat, Renato Sanchez et Sherendour. Or 6, c'est le maximum autorisé par l'UEFA. C'est quand même une histoire, je vous laisser réagir, assez dingue.
Ça prouve qu'au Paris Saint-Germain, il y a des gens qui sont incompétents. Et voilà, s'il y a quelqu'un qui est payé pour suivre ça, pour ces dossiers-là. Et...
Oui, dont le nom est sorti dans la presse, on ne va pas l'accabler parce qu'il n'y a pas que lui, je pense.
Non, bien sûr. Mais toute l'équipe, comment on peut en arriver à avoir un dossier comme ça, un dossier aussi important? On parle d'un joueur qui a coûté 90 millions d'euros. On n'est même pas sûr qu'on peut le prêter.
Oui, que le PSG a besoin de prêter pour le revendre à un certain coût l'été prochain.
Oui, c'est un long feuilleton qu'il faut savoir bien gérer. C'est aussi important de savoir placer ses joueurs pour la sortie. Et faire une erreur comme ça, ça montre une incapacité à savoir vendre ses joueurs et prêter ses joueurs.
On en parlait avant l'émission, ça date. Il y a une autre erreur, grosse erreur administrative dont on a déjà reparlé dans Cop Paris fin des années 90. Ça dit quoi, cette erreur-là administrative, Raph?
Ça dit que le PSG, malgré son passif récent en Ligue des Champions, la capacité à ramener des stars, que le PSG doit encore apprendre, doit éviter certaines erreurs, et ça date pas d'hier, on en a parlé. Mais c'est assez cocasse quand même d'en arriver là, parce que franchement... Rappeler un joueur qui joue en Turquie.
Ça n'a pas du tout fait rire. Alors, la Juve n'a pas trouvé ça cocasse du tout. Hein,
la Juve est sportif, malgré leur période délicate, la Juve est un grand club et très structuré. C'est vrai que c'est pas coutume d'un grand club.
Après, si je peux juste dire un truc, le Real Madrid aussi a fait une erreur comme ça avec Cheryshev en Coupe du Roi. Donc, même les plus grands clubs, ça peut arriver.
Ça arrive souvent.
Mais quand on a un aussi gros joueur à placer pour le valoriser, on n'a pas le droit de faire ce genre d'erreur.
On espère que cet imbroglio va se démêler. On parle d'un transfert définitif. C'est l'option la plus envisageable de Sherendour pour débloquer le prêt de Kolo Muani à la Juve. Petite coupure pub, on se retrouve dans quelques instants, ça y est, pour évoquer le grand match PSG City en toile de fond, le duel de coach, je vais y arriver, entre Luis Enrique et Pep Guardiola. À tout de suite. De retour dans Cop Paris avec mes deux chroniqueurs du soir, Raphaël Chader et Jonathan Ferdinand. J-2, messieurs, avant le retour de la Ligue des Champions. J'avais demandé la petite musique pour mettre l'ambiance. Et on n'en a pas l'habitude, c'est au mois de janvier que tout va se jouer. Ce match face à Manchester City s'annonce éminemment décisif. On va revoir le calendrier, le classement, 7e journée de cette phase de poule unique où le PSG est pour l'instant 25e. On rappelle, ce sont les 24 premiers qui se qualifient. Manchester City, pas beaucoup mieux, 22e. Et Stuttgart, 26e, prochain et dernier adversaire du PSG. Déjà, comment vous sentez cette équipe du Paris Saint-Germain à l'approche de ces deux rendez-vous-là, où le PSG va jouer son avenir ?
Fébrile, incertaine, parce que on a juste à regarder les derniers matchs, les prestations. Le match en Coupe de France contre Espaly, même si ça avait fait un petit peu tourner, parce qu'il y avait beaucoup de titulaires. Forcément.
Tu t'attaches plus au contenu qu'au résultat, parce que le PSG est quand même sur une série de résultats très positifs.
Je m'attache au contenu, parce qu'on sait qu'il y a une différence abyssale entre la Ligue 1 et la Ligue des Champions. Ouais. Donc, jouer contre un Man City qui vient d'en claquer 6 à Ipswich le week-end dernier, c'est pas la même que jouer Lens ou Monaco, sans leur manquer de respect. Mais là, aujourd'hui, déjà, je ne sais même pas quelle sera la compo, parce que Luis Enrique nous réinvente chaque semaine.
Toujours incertain, même si la plupart, que ce soit Dembélé, Marquinhos, Hakimi, devraient être dans le groupe.
Normalement, selon les infos. Ouais. Mais aujourd'hui, aucune certitude, mais au moins, le PSG n'a pas perdu ce week-end. Je m'accroche à ça pour me dire que le PSG peut...
Jonathan, comment tu le sens ? City, déjà.
City, non, je ne sais pas, parce que déjà, City est en train de se relever gentiment. Je pense que penser qu'ils sont déjà guéris, c'est un peu trop tôt.
Ouais. Et penser que ça serait une partie de plaisir, ça serait illusoire.
Oui, pareil. Ah bah oui. Il faut avoir un juste milieu. Et moi, ce qui m'inquiète, c'est que le PSG, comme tu l'as dit, est très peu souverain dans ces matchs. Où ils sont souverains, allez, 15-20 minutes, et ils arrivent à se mettre à l'abri. C'est ça qui me dérange. Après, le match de Lens, ça a été une bonne opération et sportive et comptable, parce que du coup, tu as dû un petit peu aller chercher ta victoire. Donc, normalement, tu devrais arriver avec du rythme contre Manchester City. Et tu as fait une bonne opération comptable. Tu as mis Marseille à 9 points et tu as mis Lille à 14 points, je crois. Mais encore une fois, tu l'as dit, il n'y a pas de compo, on ne sait pas quelle est l'ossature. Il n'y a pas de certitude, quoi. Et quand on arrive dans des gros matchs comme ça, des matchs couperets, il faut quand même avoir un minimum de certitude.
Et même la victoire contre Ipswich, le PSG n'en a jamais fait depuis le mois d'août contre Montpellier. C'est bête.
On verra les images tout à l'heure. PSG Manchester City, premier acte, donc demain soir au Parc des Princes, avec un match dans le match. On y vient, qui va forcément impacter le scénario, le résultat, les retrouvailles entre Guardiola et Enrique, partenaire en club, en sélection et adversaire depuis qu'ils entraînent. Tu me demandais hier le bilan des confrontations. On va les voir. 4 matchs entre les deux entraîneurs et deux partout. Faut quand même pondérer, effectivement, parce qu'il y a la qualification en 2015 en demi-finale de Ligue des Champions du Barça de Luis Enrique face au Bayern de Pep Guardiola, et ensuite une victoire chacun entre le Barça et Manchester City. Petit avantage Luis Enrique, même si à l'époque, on va pondérer, il avait une sacrée machine de guerre.
Il n'a pas la MSN maintenant. Ouais. Non, il a Doué, Gli et Barcola, non, en restant sérieux. Luis Enrique a l'avantage, entre guillemets, mais encore une fois, c'est faussé, parce que c'était le début de
sur les 10 buts. Sur les 10 buts que met le Barça de Luis Enrique, 6 de Messi, 4 de Neymar. Donc, quelques passes dés de Suarez.
Le fameux crochet sur Boateng et le petit point sur Milner aussi. Ouais. Mais voilà, ils n'étaient pas armes égales. Là, aujourd'hui, je pense que même si Man City est sur une phase très glissante, a quand même des armes et plus d'expérience à l'heure actuelle que le PSG en Ligue des Champions avec les joueurs qu'ils ont. Donc, moi, je trouve que ces confrontations ne veulent entre guillemets rien dire, parce qu'ils n'avaient pas...
Il y a quelque chose de plus factuel et de plus général. 16 buts sur l'ensemble des 4 matchs. Normalement, Luis Enrique, Pep Guardiola, ça nous promet du football total. Enfin...
Si l'un des deux met le bus, c'est qu'il se renie pour à jamais.
Les deux équipes sont un peu en mode peur. Ouais. Donc là, ils n'ont pas les mêmes optiques. Ils sont plus à essayer de se rassurer. Et justement, je vois le match mettre un peu de temps à se débrider. Ouais. Parce que les deux équipes vont s'observer.
Et
etc.
D'observation. Ouais, je pense. On dit souvent que Luis Enrique est une sorte de disciple de Pep Guardiola, même s'ils ont exactement le même âge, la même génération. Qu'est-ce qui les rassemble ? Qu'est-ce qui les unit déjà, selon vous ?
Le football collectif, un projet collectif, un football léché, jeu au sol, on ressort court, on jeu de passe, on redouble, pas de star dans l'équipe, avant que ce soit Messi, pas de star dans l'équipe. On a aussi une idée de chacun peut jouer un petit peu partout, et c'est le projet avant tout, avant les hommes.
Ils ont joué ensemble au Barça dans la fin des années 90, ils ont été élevé à la même école et je pense qu'ils ont une vision assez, assez commune. Après, ils ont des personnalités qui se ressemblent, ouais, mais pas totalement identiques.
Ce qui les différencie,
ce qui les rassemble, c'est aussi les inventions, les coups tactiques.
Oui, oui.
Quand Guardiola en finale Ligue des Champions joue sans neuf, par exemple. Oui, c'est ça.
Coups tactiques perdants.
En fait, ils disaient, oui, coups tactiques perdants. Ils sont spécialisés des coups tactiques perdants, ouais, quand même, s'ils ont quand même gagné beaucoup de choses. Mais en fait, ils aiment toujours surprendre l'adversaire, ce que parfois ça, ils se surprennent eux-mêmes, oui, en tout cas leur équipe.
Je me souviens de, c'est quoi, c'est Rodri, pas titulaire en finale de la Ligue des Champions contre Chelsea.
C'est surtout le numéro 9. Il n'y a pas de numéro 9.
Foden
en neuf.
Rodri qui manque un grand match. Hein. Je me demande si c'est pas la finale,
oui,
contre Chelsea.
Ouais, parce qu'après KDB il se blesse pendant la finale.
Il y a du, oui, il y a du De Bruyne aussi parfois sur le banc. Un petit point commun aussi, on en parle beaucoup avec Luis Enrique, c'est la phobie du numéro 9 ou l'attrait pour le faux numéro 9. Bah après, qu'il y en a un qui a été cherché à Londres depuis.
Bah ouais, c'est ça, parce que on en parle également. Après cette défaite en 2021 en finale, Pep Guardiola s'est un peu remis en question et a désiré Harry Kane pendant l'été 2021. Il ne l'a pas eu et l'année d'après, il l'a eu à Londres. Luis Enrique, on va dire, copie un petit peu ce précepte du faux neuf, mais je trouve que ce concept-là marchait surtout quand il y avait Lionel Messi. Enfin, surtout, ouais, moi, pour moi, c'est un concept qui ne peut pas marcher partout. Et avec Luis Enrique, ça marche de temps en temps, mais ce n'est pas infaillible comme l'a été avec Messi en 2011.
Luis Enrique l'a fait avec, je crois, Fabregas au Barça, Götze, un très bon Götze, ouais, au Bayern. Ouais. Enfin, avec, voilà, sans leur faire un jeu.
C'est des équipes qui avaient pour la main mise. Si, oui, on fait l'historique des faux numéros 9, ça marche quand t'as une équipe qui a la main mise.
Et que t'as des ailiers qui marquent aussi.
Exactement. Là, parfois, c'est pas tout le temps bénéfique de faire un faux numéro 9.
Il y a un petit, moi je trouve, point commun, vous allez me dire ce que vous en pensez, le côté, ce que veut mettre en place en ce moment Luis Enrique, ce côté attaque protéiforme avec une sorte de théorème à 4-5 joueurs à 10 buts. Moi, ça me rappelle un petit peu ce qu'il avait mis en place, Pep Guardiola, à Manchester City, avant l'arrivée d'Haaland.
Moi, je trouve que c'est bien dans le sens où si t'as un absent, d'autres peuvent compenser. Mais pour ça, il faut avoir du banc. Là, actuellement, au PSG, il y a Gvara qui arrive. À City, quand on voit aussi leur banc, il y a plus de jeunes qu'autre chose, ouais, pas très expérimentés. Donc ça marche quand tu as un gros banc, comme City il y a quelques années, quand il, ouais, y avait encore Mahrez, etc. Donc ouais, pour ça, je suis assez d'accord. Mais il faut avoir les armes pour, et ouais, c'est pas évident.
Besoin de se singulariser, tu l'as dit, d'inventer. Peut-être aussi, mais ça, c'est ce qu'ils imposent au fur et à mesure de leur passage dans les clubs, d'être au centre du projet, voilà, d'être le boss. Omnipotent pour l'un comme pour l'autre.
Ouais, je trouve que c'est plus vrai pour Luis Enrique que pour Guardiola, parce que même si
Qui est la star à Manchester City, alors après l'arrivée d'Haaland, si ce n'est Pep Guardiola, depuis quasiment une décennie.
Ouais, De Bruyne. En fait, ouais, Bruyne, je trouve qu'il a eu moins peur que Luis Enrique de prendre des gros caractères. Je trouve quand même que Kevin De Bruyne, on oublie, mais c'est quand même un gros caractère.
Oui, c'est vrai.
Il y a juste à voir ses interviews avec les médias belges, c'est quand même un très très gros caractère. Donc
De Bruyne était là avant l'arrivée de Guardiola.
Même Sterling, c'est pas un mec facile. Il l'a gardé pour autant.
Ouais, il l'a gardé.
Donc je trouve que Guardiola est plus ouvert que Luis Enrique. Luis Enrique, il y a un mec qu'il n'aime pas, c'est au revoir. Ouais, Sergio Ramos en équipe d'Espagne, c'est terminé, peu importe ton statut, c'est au revoir. Pareil avec au Paris Saint-Germain.
Ça m'intéresse parce qu'on va en venir à ce qui les différencie. Est-ce que le management est différent, justement, sur la capacité à s'adapter aux joueurs qu'il a dans l'effectif?
Bah oui, au final.
Il y en a un qui est plus malléable que l'autre.
Oh, pas Guardiola.
Bah moi, j'irais plus Guardiola parce que Guardiola, il l'a montré. Et puis même Guardiola, même au Bayern, il s'est beaucoup adapté.
Avec les deux ailiers.
Avec les Robéry, il s'est énormément adapté. Je trouve que Luis Enrique, pour le coup, est plus psychorigide dans ses choix. Il n'arrive pas à expliquer, ou du moins il ne veut pas expliquer pourquoi il fait ci, il fait ça, mais à la fin...
C'est un autre volet, c'est presque la communication, mais je parle vraiment de la capacité à s'adapter et à utiliser des joueurs qui ne rentrent pas forcément dans le cadre, dans le moule.
Moi, je trouve que Guardiola s'adapte plus.
Ouais.
Même par exemple, on parle souvent
Il est moins buté que Luis Enrique, désolé.
Bah, là,
on parle de l'épisode Zlatan au Barça. Mais il a quand même titularisé pendant toute l'année.
Ouais.
Avant de lui dire, tu t'en vas.
Contre l'Inter Milan en demi-finale retour. Hein.
Il joue, c'est le match le plus important de la saison.
Messi, qui préférait faire jouer dans ce registre-là.
Mais il a quand même fait jouer Zlatan jusqu'à la fin de la saison. Ensuite, ils se sont dit au revoir, terminé. Je trouve qu'il a été. Après, il y a des joueurs qui l'ont saqué aussi. Il y a Touré, Nasri, les a saqués, par exemple. Mais je trouve que.
Il est progressif quand il arrive à City.
Il a été plus ouvert au changement. La preuve, dernier exemple en date, c'est Haaland. Mais historiquement, il a plus été ouvert au changement et a changé un petit peu ses préceptes que Luis Enrique, où j'ai toujours pas vu de changement.
Autre exemple, on en parle aussi, Raheem Sterling. À la base, c'était un ailier qui marquait pas énormément.
Ouais.
Quand vers 2017-2018, il le met en neuf et il claque but sur but. Alors, ok, c'était pas Haaland non plus.
Mais
quand tu vois d'où il part. et à la fin ce qu'il produit.
Est-ce que vous êtes en train de me dire que ces joueurs-là, pas forcément très efficaces, Gundogan, il en a fait un joueur capable de marquer 15 buts par saison, est-ce qu'il les a fait ou est-ce qu'il fait plus progresser ces joueurs? Et je parle des joueurs offensifs parce que le manque de réalisme est prégnant au PSG.
Moi je pense que c'est les deux, parce que par exemple on reprend l'interview de Thierry Henry au Barça quand il dit le mec il a tout refait Arsenal, enfin non pas Ligue des Champions mais il a tout fait Arsenal, et là au Barça il dit j'ai réappris le football, j'ai redécouvert le football de zone. Bah je pense que à City les joueurs sont arrivés, déjà ils les recrutent jeunes, ils deviennent stars avant de l'être, et quand ils sont là-bas bah ils apprennent plein de choses, et je trouve en tout cas par rapport à tout ça que les joueurs sous Guardiola ont plus capacité à progresser, mais aussi bien sur la pratique que sur la théorie.
Il y a une question de temps aussi, hein. Ça fait quasiment 10 ans qu'il est là-bas, enfin, il a eu le temps de mettre vraiment les choses en place, peut-être pas forcément aussi avec les mêmes armes. La communication, juste, Joe, t'as défloré le sujet.
Ouais, la communication, moi je trouve que Guardiola essaie au moins d'expliquer dans les grandes largeurs. Dans les grandes largeurs. Je dis pas qu'il dévoile son plan tactique, mais si on le connaît en soi, c'est des demi-espaces, on sait comment son terrain est quadrillé à lui, il nous a quand même expliqué des choses par le passé. Alors que Luis Enrique, il estime que expliquer une tactique, ça prendrait 45 minutes. Je suis d'accord avec lui parce qu'une tactique, c'est global. Et il faut expliquer chaque joueur ce qu'il doit faire. Mais au moins nous dire les grandes lignes, genre je veux que tel joueur fasse ça prend 5 minutes. Et je pense que les journalistes en conférence de presse qui sont envoyés sur place, ils ont au moins 5 minutes. Ils ont une demi-journée.
Ils peuvent rester une heure.
En fait, il faut quand même expliquer un minimum. Et si c'est pas pour les journalistes, c'est au moins pour les gens qui regardent, qui sont supporters, qui aiment le foot, qui veulent comprendre. Et ça, je trouve que Luis Enrique, c'est un vrai, vrai problème.
Pas mal de points communs, quelques différences. Est-ce que Luis Enrique peut recréer au PSG ce qu'a mis en place Pep Guardiola à Manchester City? C'est ça qui m'intéresse, parce que finalement, au Barça, ils ont réussi, ils ont gagné des Ligues des Champions tous les deux.
Si on lui laisse 7 ans, oui. Si on lui donne les moyens, oui. Si on lui donne les joueurs qu'il veut, oui. Et si les dirigeants, je vais me répéter, lui laissent vraiment la liberté de s'exprimer et même d'échouer, parce qu'on rappelle que Guardiola, sa première saison à City, il se fait éliminer par l'AS Monaco.
Ouais, en quart,
il bat Dortmund Monaco. Ouais. Mais en tout cas, il faut lui laisser du temps. Et je pense que l'expérience, il l'a. Maintenant, encore une fois, le problème au Paris Saint-Germain, c'est que je crois que le plus long mandat d'un coach sous QSI, c'est Laurent Blanc, c'est 4 ans.
La prolongation qui a été signée, je crois, au lendemain d'Arsenal, toujours pas officialisée. Donc, affaire à suivre. C'était la question de départ volontairement provocante. Luis Enrique, pas le copie de Pep Guardiola ou héritier de Pep Guardiola?
C'est dur. J'aurais envie de dire pas le copie, parce que pour l'instant, il y a quand même beaucoup plus d'échecs sur le CV de Luis Enrique que sur le CV de Pep Guardiola. Même si Pep Guardiola, à un moment donné, on se demandait s'il faisait pas exprès d'échouer, justement en titularisant des faux neufs en finale Ligue des Champions pour tout changer, pour surprendre l'adversaire. Alors que moi, je trouve que Luis Enrique, s'il avait été un petit peu moins buté, je ne suis pas certain qu'il sorte contre le Maroc à la Coupe du Monde 2022 s'il est un peu moins buté et s'il est moins... vas-y, on fait circuler la balle comme un U, là, comme je veux. S'il est un peu plus direct, je pense que peut-être qu'il élimine le Maroc, par exemple. Ouais. Je pense qu'il y a des échecs qu'il aurait pu éviter. Là où Guardiola, quand même, il s'est remis en question et il a appris de ses erreurs de « moi, je suis le meilleur en termes de tactique et je vais vous faire une leçon ». Parfois, il s'est mis un peu de côté.
Très rapidement, Raph.
Surtout que Guardiola l'a prouvé. Luis Enrique ne l'a toujours pas prouvé. Il a toujours pas réussi à aller au-delà de la performance. Il y a eu 2015. Mais sincèrement, 2015, je pense que tu mettais même un autre coach. La MSN était là. Mais oui, en tout cas, Luis Enrique ne l'a toujours pas prouvé. Et Guardiola a réussi justement à se réinventer, même si ça a pris du temps, pour gagner comme en 2023.
Allez, nouvelle coupure pub. Et on se retrouve dans quelques instants avec un supporter de Manchester City pour continuer à évoquer ce PSG-Manchester City, pour savoir à quelle sauce le PSG va être mangé mercredi. A tout de suite. De retour dans Cop Paris, la dernière partie. Jonathan Ferdinand, Raphaël Chader sont toujours là et on va accueillir tout de suite un nouvel invité pour continuer la présentation de ce PSG Manchester City. Il est en direct, il vient de Biarritz, messieurs, il a 23 ans. Il s'appelle Arthur, fondateur et présentateur du podcast French Moon et membre du bureau de Manchester City French Branch. Je travaille un petit peu l'accent. Salut Arthur.
Salut, vous m'entendez bien?
Ouais, parfait. Bon, t'es supporter, on l'a compris, mais aussi expert de Manchester City. Explique-nous déjà, c'est tout simple, comment tu es devenu supporter des Citizens?
Écoute, ça fait à peu près 14 ans maintenant que je supporte City. Je regardais la Première Ligue à l'époque. Je n'avais pas forcément d'attache pour un club en particulier. Et c'était la saison juste avant que City gagne le titre avec le fameux Agüero sur la fin.
Ouais.
Et j'aimais bien cette équipe, je me suis identifié à ce jeu-là et au fur et à mesure, je n'ai pas lâché, je me suis investi. Et maintenant, on essaie de voir les matchs assez souvent et de s'investir dans la société. prestations, donc c'est plutôt cool.
Le but du titre, incroyable, Agüero en 2012 contre QPR. Exactement. Arthur, tu vas nous expliquer quelle équipe de Manchester City va se présenter mercredi au Parc des Princes. Une équipe, alors on va voir quelques stats, même si ça va un petit peu mieux, qui a connu, moi, ce que j'appelle une chute vertigineuse cette saison. 9 défaites déjà, toutes compétitions confondues, 4e de PL, 22e en Ligue des Champions. J'imagine que le problème est assez vaste, Arthur, mais comment tu expliques cette petite descente aux enfers?
Écoute, il y a pas mal de facteurs, franchement, qui font qu'on en est arrivé là aujourd'hui. Alors, comme tu l'as dit, ça va un petit peu mieux. Il y a eu un manque de régénération de l'effectif au mercato précédent. On a un effectif qui est vachement vieillissant. Il n'y a pas énormément de profondeur de banc si on regarde un peu plus en détail. Des joueurs comme Walker, comme Gundogan, Bernardo Silva ou Ederson qui sont souvent blessés ou qui sont moins bons cette saison, qui fait qu'aujourd'hui on est beaucoup moins bon. Guardiola a toujours voulu un groupe réduit. Il s'en est justifié en début de saison en disant qu'il voulait ça. Et au final, on se rend compte qu'associé à une baisse de qualité des joueurs et une malchance au niveau des blessures, ben, on en arrive à un effectif qui ne tient pas la route. Et ça s'est accentué avec un manque de confiance, un enchaînement de mauvais résultats. Psychologiquement, les joueurs, ça allait pas du tout. Ouais. Mais bon, tu vois, nous, on s'y attendait un peu au niveau, au vu de l'effectif, pas ce degré-là, parce que depuis novembre...
Ouais, c'est assez vertigineux quand même, avec des scénarios. Ouais. Je me souviens notamment du match Feyenoord en Ligue des Champions. Ça ressemble un petit peu à ce qui s'est passé d'ailleurs il y a encore quelques jours contre Brentford. Il y a des scénarios vraisemblables.
Exactement, il y a un manque de confiance, un problème psychologique, les joueurs n'arrivaient pas à relever la tête, et depuis novembre, en termes de points, on était quasiment avec Southampton, tu vois, au coude à coude, qui est dernier de Premier League. Donc pour te dire, on est
juste rassure-moi, on vient d'en parler quasiment un quart d'heure, Guardiola a prolongé, c'est toujours l'homme de la situation à City, en tous les cas, c'est le sentiment qui se dégage.
Bien sûr, on n'a aucun doute. Je pense que tout vrai fan de Manchester City ne remettra jamais en doute les qualités de Guardiola. On n'oublie pas d'où on vient, de ce qu'il a fait à Manchester City. Il nous a fait devenir un club référence aujourd'hui en Europe. Donc bien sûr que Guardiola est l'homme de la situation. On sait qu'il va réussir à se réinventer une nouvelle fois. Et de toute façon, si ce n'est pas lui, c'est pour qui? Donc tu vois, c'est toujours la même question.
C'est difficile de trouver mieux que Pep Guardiola. Je reviens avec vous en plateau, Jonathan, Raphaël. Comment vous percevez la chute, alors qu'il s'est un petit peu arrêté, enrayé de cette équipe de City, qui était, bon, si on met le Real de côté, peut-être la meilleure équipe de la dernière décennie?
Moi, j'ai trois raisons. Déjà, la première, c'est qu'au bout d'un moment, là, il entame sa 9e saison, Guardiola. Mmh. Donc, il y a un moment donné, il y a la routine, etc. Il y a la fin de cycle avec certains joueurs vieillissants. Parler de Walker qui est sur le départ, Kevin De Bruyne, même s'il n'est pas si vieux que ça, Ederson, etc. C'est des gens qui sont là depuis 2017 quand même pour Ederson. Et enfin, la blessure de Rodri. On n'en parle pas assez. Mais depuis que Rodri...
Ballon d'or, quand même.
Depuis que Rodri est blessé, c'est plus la même équipe. Alors, ce n'est pas la seule cause, mais je pense que c'est peut-être la goutte d'eau qui a fait que Man City n'y arrive plus. Et sur cette pente vertigineuse, bah après, c'est un manque de confiance qui s'accumule. Et on n'oublie pas que la Première Ligue, c'est un championnat très relevé. Hein. Il suffit que tu sois un peu dans le doute, il y a des équipes, ils vont te punir. Donc je pense que tout ça a fait que City avait du mal à se relever. Et j'ai envie de dire, d'un côté, tant mieux, parce que ça nous montre que City est une équipe normale, entre guillemets, et qu'ils peuvent aussi connaître.
Et Jonathan, comme prévu, comme redouté par l'ensemble des supporters parisiens, le petit coup de mou, il est passé. Et c'est une équipe de City, on va en reparler avec Arthur dans quelques instants, beaucoup plus convaincante qui va se présenter au Parc.
Plus convaincante, je sais pas. En train de se guérir,
moins
ça
malade,
c'est sûr.
Oui.
Moins malade.
De suite en Première Ligue quand même.
Ouais, mais je trouve que le scénario, c'est Brentford, il est pas non plus à leur avantage.
0 à la 87e.
Je trouve que Ipswich a fait de grosses erreurs hier lors de leur match, des erreurs comme l'a fait Balerdi hier contre Strasbourg avec l'OM.
Très bien mis, de mettre une Balerdi gratuite.
Ouais, gratuit. Des problèmes de positionnement, un manque d'agressivité, des erreurs aussi de relance, notamment la relance dans l'axe sur le but de Makati. Je trouve que il y a quand même des choses chez Ipswich qui montrent que après-demain ce sera pas le même adversaire.
Alors, je vais revenir vers Arthur. Le secteur défensif, je reprends les chiffres quand même, 42 buts encaissés en 32 matchs. Là, il y a des failles à exploiter pour le PSG mercredi défensivement, avant de parler du poste de gardien de but.
Bien sûr qu'il y a des failles côté défensif. En fait, on a beaucoup de blessures depuis le début de la saison. Ake, Stones, Diaz et Akanji se blessent tout le temps. C'est un peu les chaises musicales derrière. Ouais. On n'a jamais une défense centrale qui reste pendant un petit bout de temps.
Ruben Diaz revient, si je ne dis pas de bêtises. Il a joué hier
et ça, justement, c'est le game changer, on va dire. Mm-hmm. C'est pour ça que je suis beaucoup plus serein et qu'on est beaucoup plus serein avant ce match. C'est que Ruben Diaz a fait 90 minutes hier, qu'il a eu un très très bon niveau et que quand il est là en défense centrale, il y a tout qui change. Mais comme tu l'as dit, 9e défense de Première Ligue, c'est aussi accentué par le fait qu'au milieu de terrain, il n'y a pas de réel 6 qui remplace Rodri. Donc la défense est plus exposée. Et comme je te l'ai dit, les défenseurs enchaînent pas trop. Il y a beaucoup plus de faiblesses derrière. Donc c'est clair,
le poste de gardien de but, Arthur, parce que nous, on n'a pas beaucoup de certitude de ce côté-là. Ça tourne aussi chez vous entre Ederson et Ortega. Explique-nous ça, qui va jouer au Parc?
Écoute, Ortega jouait beaucoup ces derniers temps. Il a remis Ederson là hier face à Ipswich. J'ai tendance à dire que ce sera plus Ederson qui va enchaîner, mais encore une fois, c'est du Guardiola. Vous en avez très bien parlé avant. Guardiola, on ne sait jamais trop ce qu'il va mettre en place. Moi, je préférais que ça soit Ortega parce que c'est un gardien qui est meilleur sur la ligne qu'Ederson, de mon avis. Moins bon au pied, certes, mais meilleur sur la ligne. Et on se demande quoi un gardien en priorité, c'est d'être bon sur sa ligne. Donc, je préférais Ortega, mais encore une fois, c'est Guardiola. Donc, on ne sait pas trop ce qui va être mis en place mercredi soir.
Jonathan, Raphaël, dans tout ce que l'on vient d'exposer, les errances défensives, le gardien de but, mais la qualité incontestable, individuelle, collective, qu'est-ce qui vous rassure, qu'est-ce qui vous inquiète
Moi, ce qui m'inquiète, c'est que les cadres offensifs hier se sont remis à l'endroit. Ouais, Kevin KDB, De Bruyne, Foden qui est en train de bien revenir. Haaland, j'ai trouvé que hier, ça n'a pas été son meilleur match, mais il a encore marqué. Moi, c'est vraiment cet Haaland offensif. Alors, si j'en crois le fait que Doku ait joué, il me semble, tout le match ou presque tout le match, il ne devrait pas jouer. Et vu le match qu'il a fait, tant mieux. Moi, oui, c'est vraiment ces cadres offensifs qui sourient. Ils sourient à nouveau, oui, qui ont à nouveau le sourire. Il y a du mouvement, il y a des choses qui sont proposées, et ça c'est inquiétant parce que je suis jamais serein avec la défense du Paris Saint-Germain.
Hier, on a vu que c'était comme le ketchup, les buts. Fois, ça a du mal à sortir, mais quand ça sort, ça enchaîne. Ils avaient mis aussi 4-1 contre West Ham, donc ça reste une équipe qui est capable offensivement de faire mal. Nous, ça fait quand même un petit moment que le PSG n'a pas fait de clean sheet sur des gros matchs comme celui-ci. Il y a Salzbourg, mais bon, Salzbourg était encore plus que malade, mais voilà. Faut quand même s'attendre à une équipe qui a les mêmes problèmes que nous, c'est-à-dire pas le même 11, des problèmes défensifs, même rotation de gardien comme nous. Donc,
ça fait beaucoup de similitudes.
Bah ouais, c'est ça. Et au final, Haaland se remet à marquer, comme tu as dit.
On va revoir les images justement du 6-0 hier sur la pelouse d'Ipswich. Tu l'as dit, doublé de Foden, but d'Haaland, but de Doku. City vient quand même, Arthur, de gagner 4 de ses 5 derniers matchs. Comme on s'y attendait, City va quand même beaucoup mieux. Comment tu le juges ? À quel niveau ce retour en forme ? Quelle équipe de City véritablement mercredi ?
Écoute, là pour le match d'hier, c'était vraiment le meilleur match qu'on ait fait sur les dernières semaines. On avait beaucoup de mal, si tu veux, à rester constant de la première à la 90e. On faisait souvent une mi-temps sur deux, ou alors on craquait en fin de match contre Brentford notamment. On a pris 2 buts dans les 10 dernières minutes. Hier, ça a été vraiment intéressant parce qu'il y a eu de la solidité défensive. Il y a eu, offensivement parlant, ça a été hyper intéressant. Comme vous l'avez dit, les cadres, à savoir De Bruyne, Foden, qui avaient plus de mal, sont redevenus au niveau. Haaland, je le trouve aussi intéressant dans le jeu. Donc, franchement,
Parle-nous un tout petit peu d'Haaland, désolé de te couper, qui vient de prolonger. Alors, c'est peut-être une première dans l'histoire du foot pour 10 ans. Quel effet a eu cette annonce et quel Erling Haaland cette saison et depuis quelques semaines ?
Écoute, nous, forcément, ça se voit à mon sourire. On est trop contents en tant que supporters City d'avoir Haaland qui prolonge, forcément. C'est une super nouvelle. Je sens qu'il est mieux psychologiquement depuis quelques matchs. Il était un petit peu cramé, on va pas se le cacher, parce qu'il n'a pas de remplaçant en numéro 9. Donc Guardiola le faisait enchaîner. Là, il a pu un peu se reposer en coupe face à Salford où il n'a pas joué. Et donc là, on a un Haaland beaucoup plus frais, un Haaland qui fait les efforts défensifs, un Haaland qui est beaucoup plus présent dans le dos, au but, dans le jeu, qui touche plus de ballons. Il a touché 19 ballons hier, ce qui est à noter parce que c'est pas souvent le cas pour lui. Il a marqué malgré le fait qu'il est loupé un face à face. Je trouve qu'on a Haaland qui est mieux. Alors à voir si ça continue. Il va falloir qu'il soit plus clinique face au PSG mercredi soir. Mais en tout cas, Haaland, je le trouve mieux qu'il y a quelques semaines. Ça, c'est clair.
Je voudrais que l'on termine, messieurs, par l'historique des confrontations entre City et le Paris Saint-Germain. Il y a déjà eu 7 matchs dans l'histoire. City, petite bête noire du PSG, quand même une seule victoire pour les Parisiens. C'était le premier but de Léo Messi. 4 défaites, dont 2 éliminations en Ligue des Champions. Quart de finale en 2016, demi-finale en 2011, votre meilleur ou certainement votre pire souvenir de ces PSG City ?
Bon, le pire, c'est le match retour en 2016, le 3-5.
Le Laurent Blanc, le 3-5-2.
Le but de Kevin De Bruyne. Ouais. La défaite de 0 au match retour en 2021, en demi-finale, parce que les doublés de Mahrez et même le match aller où on ouvre le score avec Marquinhos, tu manges un coup franc et un centre-tir comme ça. C'est vrai que Man City, c'est compliqué.
Jonathan. Ouais, c'est difficile. Il y a tellement de mauvais souvenirs que c'est difficile d'en sortir un. Ouais. Moi, ce qui m'a énervé aussi, c'est le fait qu'en 2021, cette équipe ne sache pas perdre. C'est Di Maria, je crois, qui met une énorme semelle, qui prend un rouge direct.
Même deux rouges. Gay aussi qui prend pas un. Ouais. Non, c'était au match aller.
Ça m'a aussi énervé parce que, au pire des cas, tu te fais balader, mais ne va pas savater l'adversaire comme ça. Quand on demande du caractère au Paris Saint-Germain, on ne demande pas des bouchers. Ouais. Mais bon, après, il y a tellement de mauvais souvenirs.
Il y avait une case d'écart quand même sur cette demi-finale.
Moi, j'ai trouvé que sur le match aller, pendant un temps, pendant une petite demi-heure, je commençais à y croire. Et puis après, il y a le coup franc de Mahrez, c'est ça.
Mahrez, période sans supporter.
Ouais, c'est ça.
Arthur, toi, ton meilleur souvenir de ces PSG.
Il y en a beaucoup.
Calif 2021, forcément, parce qu'on souffre en première mi-temps au match aller, puis au match retour, c'est une super prestation de Mahrez. Mais c'est vrai que le 2016 est quand même sympa. On fait 2-2 au parc à l'aller. Je me souviens, un vieux but de Fernandinho et la frappe de De Bruyne, petit filet au retour, qui nous fait faire notre premier demi-finale de histoire. Donc je vais dire 2016 parce que voilà, c'était notre première demi-finale de l'histoire en Ligue des Champions face au Real, donc c'était sympa.
On va regarder le résultat du sondage, les amis. On vous a demandé sur le hashtag Cop Paris un petit pronostic pour ce PSG City. L'optimisme n'est pas vraiment de mise. 57% des votants voient une victoire anglaise, 27% seulement victoire du PSG et un petit 16% de match nul, qui serait peut-être un moindre mal, qui sait. Messieurs, pronostic, Jonathan, Raphaël, allez-y.
Moi, je suis optimiste, je vois une victoire 2-1.
Oh là là, la victoire ouais, 2-1.
Moi, je vois Jonathan. Un partout.
Un match
qui, on va dire, qui sauve un peu les deux équipes d'une élimination prématurée. Ouais.
Arthur, petit pronostic avant de se quitter pour ce PSG Manchester City.
Mais moi, ça sera 3 City. Je suis plus positif que vous pour votre équipe, malheureusement.
Tu le verras où le match, Arthur, mercredi?
Je le verrai au parc. Je serai au parc en parcage visiteur avec les supporters de City. Voilà. D'ailleurs, si je peux juste passer, il y a un rassemblement dans un bar Bootleg à Paris pour tous les supporters de City francophone ou anglophone. Donc voilà, n'hésitez pas à venir.
L'info est bonne à prendre.
On n'ira pas, mais.
On dira pas mais Ali Benarbia quand même.
C'est très ancien citizen, ancien joueur du PSG, donc voilà, un joueur du trait d'union pour suivre cette rencontre. Merci beaucoup Arthur, très bon match mercredi soir.
Avec grand plaisir.
On va regarder le calendrier du PSG avec donc ce Manchester City PSG, PSG City mercredi prochain 21h, PSG Reims samedi avec peut-être la première de Guevara sous le maillot parisien, et puis Stuttgart PSG, ça sera de nouveau très chaud la semaine prochaine, épilogue de la phase de poule mercredi 29 janvier. On va passer à l'Omnisport avec les résultats de vos clubs franciliens du week-end, le tout résumé par Maxime Montiou.
Victoire aisée pour le Paris Basket hier face à la lanterne rouge La Rochelle. Les Parisiens ont déroulé. Succès 90-73 qui s'est dessiné dans le premier quart-temps au cours duquel Nadir Hiffi et ses coéquipiers ont inscrit 38 points. Après 16 matchs, le Paris Basket est troisième juste derrière Cholet et l'Asvel. Samedi, le Racing a gagné 31-22 face aux Stormers en Coupe des Champions. Mais il fallait attendre dimanche et le résultat entre Toulon et Sale pour savoir si les Franciliens se qualifiaient en huitième de finale. La réponse est finalement négative. La victoire bonifiée de Sale lui a permis de doubler le Racing 92. Maigre consolation, Nolan Le Garec et ses coéquipiers sont reversés en Challenge Cup où ils affronteront Perpignan en huitième de finale. De son côté, le Stade français a été corrigé par les Bulls à Pretoria. Défaite 48-7. Conséquence, les Parisiens sont éliminés et même pas reversés en Challenge Cup. Enfin, un mot de football féminin pour finir avec la défaite du Paris Saint-Germain dans le choc contre l'Olympique lyonnais. Le PSG s'est incliné 2-0 sur des buts de Dumornay et Diani. Conséquence de cette deuxième défaite de la saison, les Parisiennes sont désormais troisièmes à un point du Paris FC et 8 du leader lyonnais.
Comme Paris, c'est déjà fini. Un immense merci à mes deux chroniqueurs, Jonathan Ferdinand, Raphaël Chader. Merci messieurs. Je vais également remercier Maxence Veynaud qui était ce soir à l'édition. On passe un petit coucou à Jordan Le Sueur qui nous regarde très certainement. Je vous rappelle que Cop Paris est disponible en replay et en podcast sur l'appli RMC BFM Play ainsi que sur le site web de BFM Paris. On vous souhaite à tous une très très bonne semaine. Bon match mercredi et on se retrouve lundi prochain avant veille de Stuttgart PSG. Ciao ciao.